France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui la Grande Loge de France. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission et en cette période de fin d'année. Une période de fête propice souvent au fait de se retrouver autour d'une table. On partage un repas, parfois un banquet, on échange, des mots, des silences aussi. Et sans même y penser, on fait beaucoup plus que manger, on se reconnaît. Le repas, c'est cet espace de transmission. C'est un lieu simple où la fraternité peut se vivre concrètement. Partager le pain avec ses frères compagnons. Les agapes, disent les francs-maçons pour leur repas. C'est bien de cet agapé, cet amour fraternel qu'il s'agit. Mon invité aujourd'hui, Thierry Marx, connaît bien cette dimension spirituelle des repas. Chef cuisinier, artisan, il est aussi un passeur, formateur, engagé auprès de celles et ceux que le travail a parfois laissé de côté. Il pense la cuisine comme un acte de responsabilité et évidemment de sens et d'esprit. Il vient d'ailleurs d'ouvrir un nouveau restaurant, le Cercle, au sein même des locaux de la Grande Loge de France, à Paris, dans le quartier des Batignolles, un lieu pensé comme un espace de rencontre. Avec lui, nous allons parler de cuisine, de travail, de transmission, et de cette idée simple mais essentielle, comment, à travers le geste, le partage et l'exigence, on peut continuer à construire du lien. Thierry Marx, bonjour.
Bonjour.
Thierry Marx, commençons peut-être par le commencement et votre parcours. Un parcours souvent présenté comme celui d'une émancipation par le travail. Vous dites même que la cuisine vous a sauvé. Alors de votre enfance dans une cité de Ménilmontant au restaurant étoilé, est-ce que le travail vous a permis de mettre un peu d'ordre dans un chaos initial ?
Oui, parce que d'abord, le travail est arrivé par quelque chose qui était un mouvement, finalement, qu'étaient les compagnons du devoir, des Devoirs Unis, et ce qui m'a permis de rencontrer des hommes libres. Libres et instruits, libres parce que instruits, et qui m'ont donné le goût du beau, le goût du bon, le goût de l'excellence, et ça guide encore ma route aujourd'hui. Donc la cuisine, j'ai commencé par la pâtisserie, et aujourd'hui en cuisine, j'ai la même application et implication dans mon métier, et pour mieux le transmettre. Mais c'est vrai que ça m'a donné vraiment une perspective et un projet.
Alors vous l'évoquez justement, vous êtes passé par les compagnons du devoir, vous avez rencontré des grands chefs, des grandes figures, Claude Deligne, Alain Chapelle, Joël Robuchon. Il y a eu un apprentissage, une transmission par des maîtres, on pourrait dire, à l'apprenti que vous étiez alors.
Bien sûr, deux personnages très importants qui m'ont donné ma chance, parce que le CV était vide, donc je peux considérer que je suis rentré presque par effraction dans ce métier. Moi qui arrivais de la pâtisserie, c'était compliqué. Claude Deligne, chef du Taïwan, 3 étoiles, va me donner ma chance, et ensuite il va me proposer de m'aider pour me mettre le pied à l'étrier chez les plus grands. Et dans ces plus grands, évidemment, je rencontre Alain Chapelle, Jacques Maximin et d'autres, mais je vais rencontrer Joël Robuchon. Et c'était une figure marquante parce que moi, je ne voyais pas que le technicien. Beaucoup de mes jeunes confrères à l'époque ne voyaient que le technicien, meilleur ouvrier de France. Moi, je sentais que chez cet homme, il y avait une spiritualité qui était extrêmement intéressante. Beaucoup plus tard, j'ai su effectivement qu'il était passé par le compagnonnage, mais aussi par la franc-maçonnerie. Et c'est vrai que c'était une bibliothèque à lui tout seul. Moi, il m'a fait découvrir Gouffet, il m'a fait faire la relecture dans le détail de ce que pouvait être Escoffier. Et en même temps, les quelques conversations que nous avions quelques dizaines d'années plus tard, et quand il est un des seuls chefs à être venu voir ce que nous faisions à Paris-Saclay sur l'alimentation du futur, eh bien, je sentais que c'est cet homme, il sortait du silo uniquement de la gastronomie, il y avait autre chose derrière, il y avait une élévation de ce qu'il présentait dans son métier comme une forme de spiritualité, probablement une spiritualité assez laïque, mais en tout cas une vraie spiritualité dans le sens du geste, dans le sens de la maîtrise du feu et de la maîtrise du temps qu'il mettait à nous transmettre le métier.
Un maître en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est vous, Thierry Marx, qui êtes dans la position du passeur. Vous avez créé des écoles et des dispositifs de formation. En quelques mots, que signifie pour vous transmettre un savoir-faire, un savoir-être ?
Je ne l'ai pas fait dans le même état d'esprit que pouvait le faire les compagnons du XXe et du XXIe siècle. Je l'ai fait peut-être dans l'état d'esprit, ce que les compagnons ont pu représenter à l'époque de la construction des cathédrales, de faire des gens qui n'avaient rien, des hommes et des femmes libres, notamment des hommes libres. Pourquoi ? Parce que, bien souvent, quand vous êtes en grande précarité, vous penser à signer à cette situation sociale. Et moi, ce que j'avais envie d'aider, c'était des gens qui avaient des fois des parcours de vie qui ressemblaient au mien un petit peu, et de leur dire, mais non, il n'y a pas de raison de se croire à signer à une situation sociale. Apprenez un métier, soyez curieux, prenez de la connaissance dont vous allez avoir besoin pour être des hommes libres. Et nos écoles, cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi, passeport pour l'emploi, c'est l'idée de remettre des gens en verticalité pour qu'ils mènent le combat de la vie. C'est cette grande phrase de Bertolt Brecht que j'aime beaucoup, qui disait « Celui qui ne combat pas a déjà perdu ». Et dans la transmission, il y a un combat politique, qu'on le veuille ou non. Mais au sens étymologique, bien entendu, mais il y a un combat politique. Si vous laissez croire aux gens qu'ils sont assignés à une situation sociale, eh bien, c'est tout le contraire de ce que j'ai vécu chez les compagnons. Moi, je me souviens d'une phrase chez les compagnons qui disait « Salaire honnête ou repos, du premier n'est l'harmonie, du second n'est l'anarchie ». Vous voyez ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est une phrase qui date du 19e siècle.
Alors, dans votre travail, Thierry Marx, la nourriture engage aussi une responsabilité envers ceux qui la produisent, ceux qui la préparent et ceux qui la reçoivent. Jusqu'où, selon vous, manger devient un acte presque éthique ?
Bah, c'est-à-dire qu'il faut, il faut reprendre les choses à la base. Aujourd'hui, il faut arrêter d'être des consommateurs. Et de redevenir des mangeurs. C'est tout le travail de Claude Fischler, ce sociologue avec qui j'aime beaucoup travailler, de se dire il faut refaire des mangeurs dès la petite enfance pour être un peu moins des consommateurs. Et puis, il faut réparer une chose terrible dans notre société, qui est la fracture sociale, qui a 40 ans, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons dans ce pays une alimentation à deux vitesses. Une alimentation pour ceux qui ont un reste à vivre suffisant et une alimentation pour ceux qui ont le 10 du mois, qui n'ont plus un reste à vivre suffisant et qui n'achètent plus une valeur, mais un prix. Donc il faut regarder ça de près, comment on va réparer cette fracture sociale, et en même temps, comment on va travailler sur une agriculture qui va mesurer son impact social, la rémunération de l'agriculture, de l'agriculteur, et en même temps, dans l'impact social, est-ce que ces bons produits sont accessibles au plus grand nombre ? De cette rémunération de l'agriculteur va naître et pousser un travail sur la transition environnementale qu'il faut absolument faire, et de regarder la valeur nutritionnelle d'un produit. C'est ce qu'on fait depuis 25 ans chez Bleu Blanc Cœur, et aujourd'hui on a 7000 agriculteurs qui sont assez contents d'avoir révisé un petit peu et de repris leur rôle de paysan. Et on voit bien que ça peut fonctionner dans une agriculture qui doit se redimensionner aujourd'hui, et notamment quand on parle de souveraineté alimentaire.
Alors vous l'évoquiez avec Joël Robuchon, quand on pense cuisine, on pense évidemment recettes et presque donc plus gestes, techniques, outils. Chaque geste compte, chaque détail a son importance. Donc la cuisine, c'est aussi cette maîtrise du geste.
Bien sûr, c'est le moine Dongen, c'est le 6e siècle. Le moine Dongen dit maîtrise du geste, maîtrise du feu, maîtrise du temps. Le geste, coupe juste, goût juste. Vous faites une tarte aux pommes, une pomme est trop émincée, trop fine, elle aura un goût de carton, trop épaisse, elle aura un goût acidulé. Donc c'est un déséquilibre du goût. Ensuite, la maîtrise de la cuisson au gradient montant ou au gradient descendant, et la maîtrise du temps. Le temps pour faire, qui fait de vous un professionnel, et le temps, la saisonnalité. Et ça, depuis le 6e siècle. Et ça, effectivement, le chef Robuchon, Joël Robuchon, nous l'expliquait. Alors moi, encore une fois, j'ai eu des conversations avec Joël Robuchon en dehors du creuset, enfin du silo de simplement de l'entreprise, et il y avait un Joël Robuchon dans l'entreprise et un Joël Robuchon à l'extérieur, et moi je buvais ses paroles parce qu'il avait une culture absolument incroyable là-dessus.
Alors je reviens quand même à cette idée du geste. Vous avez évoqué que vous étiez un artisan, mais vous êtes aussi un peu un artiste, un créateur. Comment le cerveau et la main...
On peut pas mélanger l'artiste et l'artisan. À un moment donné, j'aime bien me mettre dans la situation de l'artiste, parce que l'artiste doit créer. Mais quand vous créez, quand vous innovez, vous dérangez des cercles établis par d'autres, et vous prenez des coups. Donc j'aime bien l'audace de l'innovation, j'aime bien l'audace du créateur, mais à un moment donné, ma base est d'avoir maîtrisé les bases métiers pour pouvoir jouer avec la palette ensuite. Mais cette notion de créateur, elle fait peur, donc on n'ose pas finalement, certains se prétendent créateurs parce qu'on a retirer 20 grammes de sel ou changer un peu la disposition d'un plat, mais la création, elle est dans la rupture.
Et cette maîtrise du geste, j'y reviens, mais vous la pratiquez aussi, je crois, dans la pratique des arts martiaux. Il y a un rapport très fort au geste, au corps, à la technique. Il y a une forme de spiritualité.
Tout est dit dans l'art martial. Il y a une spiritualité, bien évidemment. On va saluer le lieu dans lequel on va avoir un enseignement. On va saluer celui qui sait, qui a su avant nous. On va saluer les anciens. On se met l'esprit en disponibilité pour apprendre quelque chose. La maîtrise du geste et du feu intérieur, finalement, on va revenir à ça. Et le bon timing, fait que à un moment donné, vous allez être bon dans cette pratique martiale. Et deuxième chose que vous allez apprendre spirituellement, ce qui est très intéressant, c'est de mettre du temps entre l'émotion et l'action. Et ça, c'est très important quand il va falloir maîtriser ses émotions, or que le temps va se contraindre à chaque service. Eh bien, l'enseignement d'une pratique comme celle-ci, les arts martiaux, notamment pour moi le judo et le kendo, eh bien, c'est de canaliser ça pour ne pas mettre de pression excessive sur les collaborateurs.
Vous évoquez le judo, le kendo, vous avez une vraie passion pour l'Orient, le Japon, sa spiritualité et ses traditions. Vous y avez aussi découvert la méditation. Je me suis posé la question, la cuisine, ça se médite aussi ?
La cuisine, ça se regarde, ça se médite et ça se mange. C'est tout le ce que là aussi, quand on relit le moine Dongen, c'est un petit peu ce qu'on perçoit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, d'ailleurs il y a quelqu'un qui synthétise bien ce propos, c'est Jacques Maximin. Jacques Maximin dit la cuisine, c'est couleur, odeur, saveur. Il a totalement raison. Et même dans les neurosciences, on vérifie ça. Et ce que je trouve très intéressant. Donc effectivement, le côté méditatif, ne pas se goinfrer, prendre le temps de sentir, de regarder et d'apprécier et voir même la frustration du pas assez pour repasser à notre place. C'est toute la cuisine équilibrée du kaiseki, qui est la grande cuisine classique japonaise, d'apprendre à manquer pour rebondir sur un autre plat après. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Mais couleur, odeur, saveur, oui, bien évidemment. Et tout ça se vérifie avec de la méditation. Oui.
Alors, on parle de l'Orient, de l'Occident. Vous voyagez de l'un à l'autre très régulièrement. Ces deux traditions se nourrissent l'une l'autre.
Oui, elles se sont nourries mutuellement pendant un certain nombre d'années. On va retrouver, quand je relisais il y a quelques semaines les écrits de Charlotte Perriand sur sa vision qu'elle avait eue au Japon et ce que ça a fait naître chez elle. Et puis, j'ai des Japonais, comme quand on parle d'Issey-Miyake, Yamamoto ou d'autres, et bien de ce que l'Occident leur a apporté. Après, j'ai une petite crainte sur ce que devient l'Occident aujourd'hui. Et je me souviens d'une phrase terrifiante que j'avais entendue quand j'étais dans un groupe chinois où on disait l'Occident s'oxyde, l'Asie s'oriente. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de s'oxyder, de reprendre un petit peu nos valeurs qui étaient vraiment similaires à celles que je pouvais trouver au Japon.
Alors on parle beaucoup de cuisine, mais je voudrais parler de l'espace de cette cuisine. Un espace où on parle de chef, de brigade, chacun est à sa place, chacun a son rôle, sa responsabilité. Comment vous vivez ce collectif, cette hiérarchie? C'est une force?
C'est une force, oui, c'est une force opérationnelle, je dirais, si je devais prendre un terme militaire. C'est de mettre en perspective des compétences techniques, en réalité opérationnelle, en passant par l'émotion. Parce qu'il y a une émotion, il y a un commandement, il y a une émotion, il y a une mission à remplir. Donc, pour délivrer une expérience client. Donc, tout ça peut être très mal perçu ou très déséquilibré dans une méthode de commandement. Donc, il faut le sortir, au contraire, de ce qu'on a toujours tendance à faire, de dire « c'est très militaire ». Non, c'est très théâtral. Et qu'est-ce que c'est que le théâtre antique ? Unité de lieu, de temps et d'action. Et quand, sur scène, vous loupez une réplique, eh bien, la sortie est ratée. Donc, nous, quand on loupe une réplique, le plat est raté. Donc il faut mettre l'exigence que vous avez, comme pour une pièce de théâtre, cette unité de lieu, de temps et d'action, c'est la même chose. Mais de parler d'ordre militaire, où la mission finale est peut-être de sacrifier sa vie ou la vie de quelqu'un d'autre, c'est pas du tout le rapport qu'on a en cuisine. Au contraire, on est dur avec les faits, certes, mais bienveillant avec les gens.
Bienveillance, donc. Alors, j'évoquais au début de cette émission le repas comme un temps de pause, presque un temps suspendu. Pensez-vous que le repas puisse encore être, dans cette société un peu pressée, ce lieu d'écoute, de dialogue, de reconnaissance de l'autre ?
Je suis convaincu, mais vraiment convaincu, pour avoir nombreuses fois lu et relu Vlaslavik, trop de quelque chose provoque son contraire. Et c'est l'école de Palo Alto. Et je trouve ça intéressant dans le sens où trop de digitalisation, trop de virtuel, trop de monde parallèle, parce qu'on est quasiment aujourd'hui entouré d'un monde à la Matrix autour de nous, va faire en sorte que les gens vont revenir au toucher, au tactile, à l'envie de se rencontrer, et ça passera par l'assiette. Et je dis toujours, et c'est ce que je dis à la Grande Loge de France, les racines de l'esprit naissent dans l'estomac, donc à table. Donc on reviendra aux formules d'Antonin Carême et de Brillat-Savarin.
Alors je le disais, vous ouvrez, Thierry Marc, ce nouveau restaurant, Le Cercle, au sein de l'hôtel de la Grande Loge de France à Paris, dans le quartier des Batignolles. Un restaurant ouvert à tous au déjeuner. Alors une question directe et très simple, en quelques mots, que va-t-on y découvrir et surtout que va-t-on y manger ?
Alors, on a repris en main ce restaurant, donc on va y manger des choses vraiment du terroir français et à un prix agréable à manger et agréable à payer.
Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Thierry Marx. Pour conclure, comme à chaque émission, nous évoquons une loge de la Grande Loge de France. Son nom, jamais choisi au hasard, dit quelque chose de l'histoire de ses frères, de l'âme de notre obédience et parfois même d'une certaine vision du monde. Aujourd'hui, nous souhaitons rendre hommage à la loge L'Espérance écossaise au Mans. Car nous sommes aujourd'hui le 21 décembre, jour du solstice d'hiver, ce moment de bascule dans le calendrier et cette porte qui nous annonce que demain déjà, la lumière va revenir et que nous pouvons espérer. Et comme le dit si bien l'écrivain Frédéric Boyer, l'espérance nous bâtit ouvert, prêt à nous élancer, elle ouvre le possible. Espérer, c'est prendre position pour accueillir ce qui vient et dont je ne peux rien décider ni posséder, sinon m'ouvrir à lui. Cette espérance et cette ouverture, elles sont au cœur du rite écossais ancien et accepté, pratiqué par les frères de la Grande Loge de France. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. C'était les divers aspects de la pensée contemporaine de la Grande Loge de France, une émission préparée et présentée par Clément Ledoux. Aujourd'hui à la technique, Noé Chaban, et à la réalisation, Daphné Leblond. Très bon dimanche à tous.